Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Monsieur Yanis Wendling, bonjour. Vous êtes président de la conférence des inspecteurs et auditeurs territoriaux et nous allons évoquer avec vous aujourd'hui la fonction d'audit interne dans un dispositif anticorruption.
Bonjour Olivier, merci de m'accueillir.
Alors je vous en prie. Alors tout d'abord, pouvez-vous présenter aux auditeurs et aux auditrices ce qu'est la conférence des inspecteurs et auditeurs territoriaux ?
Oui, c'est une association qui comprend 200 membres à peu près, qui viennent de tous horizons, de villes, de départements, de régions, du sud, du nord, donc tout type de collectivités. Et l'objet, c'est de réunir, d'échanger les professionnels de la maîtrise des risques, donc des métiers qui concourent à la maîtrise des risques, donc l'audit interne, le contrôle interne, l'inspection, et ensemble, en fait, de capitaliser sur nos expériences, sur nos bonnes pratiques pour accompagner chacun d'entre nous dans nos projets professionnels ou dans la mise en place de ces fonctions dans nos collectivités.
Et est-ce qu'il faut être inspecteur ou auditeur pour adhérer à l'association ?
Alors, c'est une association professionnelle, donc oui, il faut avoir un lien avec ces métiers, évidemment, mais ça s'adresse autant aux néophytes qui ont une commande et qui doivent mettre en place ces fonctions, qui n'en ont jamais fait, qu'aux professionnels un peu aguerris qui sont sur ces métiers depuis très longtemps. Ce qui compte, c'est effectivement d'avoir une commande, d'avoir un projet sur la mise en place ou l'animation d'un dispositif d'audit, de contrôle interne, d'inspection ou de conformité, voilà, quel que soit son passé professionnel, son univers d'origine.
Mais si je suis, par exemple, référent déontologue, je suis chargé dans ma collectivité de mettre en œuvre un dispositif anticorruption ou un audit, est-ce que je peux adhérer ou
Oui, bien sûr, vous pouvez adhérer, puisque nous, on a une vision assez large, en fait, de nos métiers, et on s'aperçoit de plus en plus qu'on doit développer des synergies et que tous ces métiers se renforcent et qu'un objectif finalement à protéger la collectivité par rapport à différents risques auxquels elle est confrontée et notamment celui de la corruption. Et que pour que tout ceci soit très efficace, il faut qu'on parle le même langage, il faut qu'on utilise les mêmes méthodes, qu'on parle de la même façon à nos collègues dans les collectivités ou à nos parties prenantes. Et c'est pour ça que du coup qu'on accueille, alors pas tout le monde, mais en tout cas toutes les personnes qui agissent en ce sens. Et donc celles dont vous parlez, qui sont déontologues ou qui sont en charge d'animer un dispositif anticorruption, qui doivent auditer un dispositif anticorruption. Elles sont les bienvenues.
Alors, je crois savoir que vous réalisez des guides pour les collectivités territoriales.
Oui, c'est d'ailleurs une des raisons d'être en fait, de l'association, qui a un partenariat très étroit, notamment avec l'Institut français l'audit du contrôle interne, mais aussi l'AFA, avec qui on travaille régulièrement. Pourquoi on s'est aperçu en fait, que tous ces métiers sont quand même très nouveaux, hein, très nouveaux. À titre d'exemple, le CNFPT a inscrit dans son répertoire des métiers la fiche fonction sur le métier d'auditeur interne, hein, d'inspecteur, il n'y a que quelques années, hein, 3-4 ans, juste avant le Covid. Et donc, il existe très peu de guides, de repères pour que les personnes puissent se lancer sur ces métiers, pour implémenter une nouvelle démarche. Donc, il y a un vrai besoin à la fois d'expliquer ce que sont ces métiers, et que les personnes aient un cadre, un document de référence, mais aussi des guides pratiques pour réaliser les missions qu'on leur confie au quotidien. Par exemple, on a réalisé des guides sur comment faire un audit des fonctions de gestion de ressources humaines, mais aussi un guide sur qu'est-ce que le COSO pour les collectivités. Et oui, qu'est-ce que le COSO ? COSO, c'est quand même le référentiel de contrôle interne auquel tout le monde fait référence. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le monde des collectivités ? Comment j'en parle ? Comment ça se duplique ? Donc on a fait un guide. Donc effectivement, c'est une de nos raisons d'être principales.
D'accord, donc vous réalisez bien des guides pour les collectivités territoriales, entre autres ou notamment ?
C'est surtout pour les collectivités. Hein. Nous, on est vraiment la conférence des inspecteurs auditeurs des territoriaux.
Oui, voilà.
Pour les collectivités, pourquoi ? Parce qu'on tout simplement, on n'a pas la même gouvernance que les services de l'État. On a des élus très proches, avec des maires adjoints, des vice-présidents qui sont très proches, donc une gouvernance particulière. Et donc, il faut pouvoir répondre précisément à nos donneurs d'ordre. Et donc, pour ça, nous, on vise les territoriaux. Pour autant, dans nos membres, on a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui sont d'autres univers, établissements publics, ou parfois même certains opérateurs de l'État. On a même un collègue de la ville de Genève qui est membre depuis plusieurs années chez nous. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que finalement, on a tous les mêmes difficultés, et qu'en se rencontrant, bah, on est un peu plus fort, on est peut-être plus intelligent, et qu'on trouve plus facilement les solutions par rapport aux difficultés qu'on rencontre. Donc oui, les territoriaux, mais on est ouvert à d'autres personnes qui ont envie de travailler avec nous sur toutes ces questions.
D'accord, je comprends bien. Est-ce que votre action va jusqu'à accompagner une collectivité si elle veut mettre en œuvre une démarche d'audit ou d'inspection interne ?
Alors, notre raison d'être, c'est vraiment d'accompagner les territoriaux, hein, les personnes qui travaillent dans les collectivités et qui ont en charge ces types de fonctions. Et donc, elles, effectivement, on les accompagne au travers des guides que j'évoquais tout à l'heure. On a aussi des groupes de travail, des conférences. Mais très régulièrement, notamment via notre site internet, on a beaucoup de personnes qui nous contactent en disant bah, « Hier, le maire, il a lu un article sur le site de l'AFA sur l'audit interne ou l'audit anticorruption et je veux mettre ça en place. Comment je fais ?» Et donc très souvent, on a des personnes comme ça qui viennent nous voir pour dire comment je m'y prends. Donc nous, on n'a pas objectif en fait dans la durée hein, d'accompagner la collectivité, mais en tout cas, ce qu'on met en place, c'est ce que je fais aujourd'hui, moi, dans ma collectivité, c'est d'accueillir un territorial pendant 6 mois, à raison d'une semaine par mois, où il vient, on lui montre comment on travaille, nos documents, nos productions, et on essaye du coup de l'accompagner, de l'aider à construire sa feuille de route. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait. Et puis, il a accès à toutes nos ressources, et puis aussi, il participe à tous nos travaux.
D'accord, il y a un partage des connaissances et une diffusion de la connaissance de l'audit, en fait. Hein.
C'est vraiment un réseau de pairs, en fait, hein, qui vraiment a pour but d'accompagner tous ceux qui, comme nous, il y a quelques années, ont eu une commande de mettre en place une fonction d'audit, d'anticorruption, de contrôle interne, et qui ont démarré d'une feuille blanche ou parfois qui ont démarré dans un contexte pas facile, parce que parfois l'environnement est pas aidant.
Et compliqué, oui.
Et donc notre raison d'être, c'est vraiment entre pairs de nous aider, nous épauler et nous amener sur le bon chemin.
D'accord. Alors, en préparant cette émission, j'ai lu de ci, de là, audit, inspection interne, maîtrise des risques. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs quelle est la différence, en gros ? Il y a peut-être, on mélange un peu ces notions.
Oui, c'est des notions qui sont nouvelles dans le monde de la territoriale, mais qui en réalité, dans d'autres secteurs d'activité, notamment l'État, sont des notions plus anciennes. Hein, puisque à l'État, il y a un décret de 2011 qui parle et qui oblige hein, les différents ministères à avoir de l'audit, du contrôle interne et de la maîtrise des risques. Mais pour les collectivités, on n'a pas ce cadre réglementaire, et ce qui fait que parfois ces notions ne sont pas précisées. Elles ne sont pas caractérisées, elles peuvent paraître un peu proches. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on a d'abord les personnes en charge de la maîtrise des risques, c'est-à-dire cartographier les risques, c'est-à-dire où sont mes risques, ils sont sur quel processus, où ça va me faire mal, entre guillemets, où je suis le plus fragile. Et pour ça, on utilise un outil qui est la cartographie des risques, qui va permettre de prioriser les enjeux auxquels je suis confronté, donc les risques. Par exemple, si je prends le risque anticorruption, où est-ce qu'il peut se loger chez moi ? Où est-ce que je suis le plus exposé ? Où est-ce que je suis le plus vulnérable ? Et donc ça, c'est le gestionnaire risque qui va le repérer, qui va prioriser. Après, on a ce qu'on appelle le contrôle interne. Le contrôle interne, on va dire, c'est le mécano. C'est celui qui va aider à animer une démarche pour sécuriser ces risques, c'est-à-dire mettre en place les procédures, les processus, les outils de contrôle, les démarches de vérification. Donc il va former, il va accompagner, et après, il va s'assurer que tout cela est correctement mis en œuvre et que se maintient dans le temps. Donc il peut faire ce qu'on appelle un contrôle de deuxième niveau, c'est-à-dire une surveillance pour voir si les outils qu'il a mis à disposition de la collectivité, hein, pour gérer les risques dont je parlais tout à l'heure, sont bien mis en place et surtout qu'ils fonctionnent et qu'ils restent dans le temps. Voilà. Et l'audit interne, dans tout ça, l'audit interne, en fait, finalement, c'est ce qu'on appelle une fonction d'assurance. C'est-à-dire, en gros, c'est quelqu'un qui est un peu extérieur, qui ne participe pas à la mise en œuvre de tout ceci, mais qui vient donner l'assurance que ça marche, que le risque est maîtrisé. Donc, il va faire des travaux de vérification pour vérifier que le risque est bien maîtrisé. Ça veut dire quoi ? Il va vérifier si, par exemple, si je prends le cas de corruption, il va aller sur place, il va prendre des marchés, il va aller vérifier dans des écoles si les travaux ont été faits, si le marché a bien été respecté, si la facture a été payée comme il fallait. Et donc, il va vraiment aller au plus près et comme ça, il va vérifier que tout l'outillage qui a été mis en place fonctionne, adapté et pertinent. Et il va faire des recommandations. Donc c'est un peu la vigie, finalement, hein. C'est la tour de contrôle qui va permettre de vérifier qu'on garde bien le cap et que tout le monde est bien aligné et va bien dans la bonne direction.
D'accord. Alors voyons si j'ai bien compris, il y a quand même beaucoup de notions dans ce que vous m'avez dit, c'est très intéressant. Alors appliquons ces concepts-là à la prévention de la corruption par une collectivité qui décide de mettre en œuvre une démarche de contrôle ou d'audit. Alors imaginons ma collectivité, elle décide de prévenir la corruption, très bien. Donc elle confie à un gestionnaire des risques dans un premier temps le fait d'identifier les risques de corruption, d'évaluer leur impact et de proposer un panel de mesures préventives. C'est son boulot, l'identification des risques. Ensuite, cette même collectivité confie au contrôle interne le contrôle régulier et permanent que les mesures arrêtées précédemment sont bien mises en œuvre par tel ou tel service à l'occasion de telle ou telle opération. Ces procédures n'ont pas été altérées, elles restent pertinentes, elles sont appliquées à l'occasion des changements de personnel ou de procédures. Voilà, tout ça reste valable. C'est le boulot du contrôle interne, on va dire. Il est interne, il est ponctuel, c'est une mission. Et notre audit interne, alors, dans tout ça, il intervient comment ? À quel niveau ?
En fait, l'audit interne, lui, va vérifier que les choses ont été mises en place et elles ont été mises en place de manière à bien sécuriser la collectivité. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Vous disiez, par exemple, on a mis en place un dispositif de prévention de corruption sur les marchés hein, ou sur les achats. C'est l'exemple que vous évoquiez. On voit bien que les marchés, les achats dans une collectivité, c'est très nombreux. Hein. Il y a à la fois la piscine, il y a à la fois les écoles, il y a les établissements gérés par le CCAS, le foyer logement, la résidence autonomie, mais ça peut être les achats informatiques, ça peut être la voirie, l'assainissement. Donc d'imaginer qu'on va tout sécuriser de la même façon partout, c'est un peu illusoire. Donc le gestionnaire de risque, lui, est là pour opérer, mais où ça va me faire mal le plus, où je suis le plus exposé. Le contrôleur interne, que vous l'avez dit, va venir régulièrement voir si on a bien mis en place des bons outils. Mais il va être là aussi pour apporter les bons outils. Donc l'audit interne, lui, ce qui va permettre de dire au maire, au président, au directeur général, c'est de dire, mais est-ce que vous n'êtes pas trompé dans l'endroit où vous avez mis les protections ? Hein, vous avez mis le paquet peut-être sur la voirie, mais en fait, on s'aperçoit qu'en achat de voirie, vous n'en avez pas beaucoup. En revanche, vous avez beaucoup de bâtiments, c'est des petits montants, et qu'on n'a pas l'effectif suffisant à la direction des bâtiments pour aller vérifier à chaque fois qu'un plombier vient réparer les WC. Ou qu'un électricien vient changer les néons dans les écoles, dans les bureaux administratifs, etc. Et donc là, on s'est trompé. On a mis le paquet sur la voirie. Et en fait, on s'aperçoit que c'est dans les bâtiments que ça ne va pas. Donc l'audit interne va venir vérifier ceci. Est-ce qu'on a mis l'effort au bon endroit ? Donc en gros, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de zone de risque ? On a bien priorisé. Donc ça, c'est ce qu'il va regarder. Comment il va faire ? Il va aller sur le terrain. Il va dire, bah voilà, moi, je vais regarder vos achats, vos marchés. Je vais prendre un échantillon, des échantillons sur la voirie, sur les bâtiments, sur l'assainissement, et puis je vais aller vérifier sur le terrain comment on a bien sécurisé qu'il n'y a pas eu un détournement de fonds publics. En gros, que j'ai payé 20 cm de robé alors que j'en ai eu que 2, hein, vous voyez, ou que j'ai 30 km de route alors qu'en fait j'en ai que 10. Enfin, pour un exemple très concret. Donc l'audit, il va vérifier, c'est un échantillon, et comme ça, il va voir si on a mis l'effort au bon endroit. Première question. Et ensuite, il va vérifier si, en fonction de ces différents endroits, les procédures marchent. On dit qu'on a mis en place des procédures pour aller vérifier la qualité de l'enrobé hein, sur les routes. Bah, très bien, mais ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on y va de manière systématique en entreprise ? Parfois, on n'a pas les moyens dans la collectivité. Donc, on fait du patrouillage. On patrouille sur les routes une fois par semaine et on vérifie tout ce qui a été fait pendant la semaine. Bah, très bien, bah, alors, très bien, il y a du patrouillage, mais est-ce qu'il y a un circuit de patrouille ? S'il y a un circuit de patrouille, est-ce qu'il y a un compte rendu pour vérifier qu'on a bien noté tous les nids de poules qui ont été réparés, bien réparés par l'entreprise. Et après, au bureau, on va vérifier que bah, les nids de poules réparés, c'est bien ceux qu'on avait demandé à l'entreprise de réparer. Donc on va vérifier qu'il y a bien toute cette traçabilité. Donc ça, c'est ce que va faire l'auditeur. Donc il va vérifier si, un, on ne s'est pas trompé de sujet. J'ai mis le paquet sur la voirie, mais en fait, c'était les bâtiments qui me posaient problème. Et deux, quand j'ai décidé que, par exemple, c'est la voirie ou les bâtiments, je vais vraiment aller sur place vérifier que tout ça, ça marche. Et qu'au fin de compte, mon risque de corruption, il est bien maîtrisé.
D'accord. Donc, du coup, on est bien d'accord, l'audit interne, ce n'est pas un contrôle du contrôle interne. Hein. C'est différent.
Alors, on dit que si l'audit, c'est du contrôle, c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est surtout un partenaire. Moi, j'en peux plus tout le partenaire. C'est le partenaire qui, finalement, va aider tout le monde à prendre un peu de recul. Alors, on voit bien une collectivité. Si je prends toujours votre exemple sur les achats, il y en a partout, sur des secteurs très, très, très variés. Enfin, c'est très difficile de tout sécuriser au même niveau. L'audit, comme il n'est pas dans le quotidien, hein, dans les services, il n'est pas ni dans la direction des finances qui traite les factures tous les jours, ni au service marché qui est enseveli sur tous les marchés à passer tous les jours, ni dans le service opérationnel qui doit répondre aux urgences tous les jours. Il a ce recul et finalement, oui, il contrôle le contrôle, mais en réalité, c'est le partenaire qui va venir prendre le recul et qui va permettre d'avoir une photo avec un plan large, hein, pour dire aux personnes, soit les rassurer en disant, vous avez fait un super travail, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut vraiment continuer, c'est super. Et il va même rassurer tout le monde et il va dire au maire, au président DG, oui, tous les services fonctionnent bien et là, on peut dormir tranquillement. Ou alors, il va dire, attention, là, moi, à votre place, je ferai comme ci ou comme ça. Là, je pense que vous n'avez pas vu tel sujet. Donc oui, il contrôle, mais en réalité, c'est vraiment le partenaire, c'est vraiment celui qui est à vos côtés, mais un peu à côté, qui vous regarde,
au-dessus,
qui va vous aider.
Au-dessus, en fait. Hein. D'accord. Ouais. Alors, on a parlé d'auditeurs, de contrôleurs, de gestionnaires de risques. Est-ce qu'il faut tous ces métiers dans une collectivité pour que ça marche ?
Alors, c'est une bonne question. On l'a tous les jours. Donc, Olivier, ce que vous me dites, je l'entends tous les jours. La réponse est plutôt oui. C'est-à-dire, si je regarde toutes les autres organisations, je parlais de l'État avec ce décret 2011 qui a été revu récemment en ce tout début d'année 2023. Effectivement, on impose, si je prends l'État, qu'il y ait une fonction d'audit qui audite le dispositif de contrôle interne qui, lui, doit s'appuyer sur une cartographie des risques. Donc, si je prends les textes réglementaires, je dois bien avoir les trois. Si ça existe du côté de l'État, il n'y a pas de raison que dans nos collectivités, ce soit différent. Donc, pour moi, la réponse est claire. La difficulté, c'est plutôt les moyens. Je pense que c'est là où vous voulez m'amener, Olivier. C'est de dire, mais si je suis une petite collectivité de 10 000 habitants, est-ce que je peux m'accorder le luxe d'avoir tous ces métiers ? Et pour moi, la vraie difficulté, c'est celle-ci. Voilà. C'est plutôt comment, par rapport aux collectivités qui ont déjà beaucoup à faire et qui ont des tensions en termes de compétences, comment les aider ? Et c'est un vrai sujet. D'ailleurs, la SIAT, on va y travailler cette année pour dire, mais serait quoi la piste à suivre pour des collectivités plus petites, pour avoir les trois fonctions, mais peut-être avec des ressources moindres et qui fait qu'on ne peut pas les séparer. Je n'ai pas le luxe d'avoir une équipe d'auditeurs, de contrôleurs internes, de cartographie des risques.
D'accord. Du coup, ça m'amène une autre question. Est-ce que l'audit interne est répandu, pas répandu, peu répandu et auprès de quelle collectivité ?
Alors, on peut être positif en disant que oui, c'est répandu parce qu'il n'y a pas d'obligation. Comme il dit, c'est très récent dans le répertoire des métiers du CNFPT. Ça date juste d'avant le Covid, c'était l'année avant le Covid. Il n'y a pas le cadre réglementaire qu'impose l'État d'ailleurs à ses propres services. Et pourtant, il y a de l'audit qui se répand partout. Donc, on peut dire oui, c'est très positif. Et que je trouve que les territoriaux et nos élus sont pleinement conscients du besoin, en fait, de déployer ce type de fonctions. Pour autant, ce qu'on constate, c'est plutôt les régions qui ont mis en place ce type de fonctions, notamment parce qu'il y a une obligation prévue par les textes européens par rapport à la gestion des fonds européens qui oblige les régions, en tant qu'autorité de gestion, à avoir ce type de fonctions. On en voit aussi, je dirais, dans plus de la moitié des départements. Pourquoi ? Parce que les départements sont confrontés aussi à des enjeux de grande diversité de leurs interventions, donc c'est très difficile à tout sécuriser, c'est très vaste, mais aussi beaucoup de dépenses sociales qui sont en fait des montants payés à de très 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 nombreuses personnes sur des tout petits montants, mais de manière très très répétée. Et donc là, on a des enjeux de risque, vous parlez de corruption, très très fort. Et donc les départements ont ressenti peut-être plus que d'autres le besoin d'avoir ce type de fonction pour bien sécuriser à la fois le fait qu'on n'est pas exposé au risque de corruption de manière trop forte, mais surtout qu'on sécurise finalement le contrôle interne, c'est-à-dire qu'on assure qu'on paye bien la bonne somme à la bonne personne et à la bonne date par rapport aux besoins des personnes qu'on doit aider. Et enfin, on a les collectivités du groupe communal, où là, les fonctions sont moins développées. Moins développées parce qu'on a des effectifs plus réduits, il y a une contrainte de moyens. On a aussi souvent des compétences moins présentes, mais également, parfois, on a l'illusion que la proximité fait qu'on maîtrise tout. Et donc, on a parfois l'illusion que parce que le maire, les adjoints au maire, le directeur général sont plus près, finalement, des services, finalement, ils maîtrisent mieux et contrôlent mieux. Et donc, on a toujours un petit peu, parfois, ce sentiment très présent qui fait qu'on a moins identifié le besoin de créer ces fonctions d'audit contrôle interne. Et là, il faut y travailler parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, ce n'est pas le cas. Voilà.
D'accord, oui, mais j'arrive à comprendre la logique, en fait. Dans une région, président de région, un président de département, un directeur général des services, qui a beaucoup de services, des milliers de personnes, il a besoin d'être un peu rassuré, et donc il a besoin de s'attacher des services de l'audit pour lui ramener un peu d'assurance. Le maire, qui est peut-être un peu plus proche de ses services, qui est un peu plus au contact des terrains, ma foi, il a peut-être l'impression de un peu mieux maîtriser tout ça.
Tout
donc,
à fait.
Donc, il n'a pas forcément besoin d'un dispositif.
C'est vrai. Sauf que si je prends aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe, par exemple, sur les risques informatiques, avec, je prends par exemple une commune, la région Île-de-France, la ville de Bondy, qui a été attaquée et qui, du coup, s'est trouvée sans système informatique du jour au lendemain, on voit bien que là, la proximité, elle ne garantit pas que vos services ont bien sécurisé la collectivité par rapport à ce risque. Ou même si demain, le risque survient, et aujourd'hui, ce n'est pas une probabilité faible, c'est quelque chose qui est avéré, en fait, y compris dans des petites communes. Est-ce que demain, je suis capable de faire la paye ? Est-ce que demain, je suis capable de payer mes factures ? Est-ce que demain, je suis capable de gérer mes inscriptions aux crèches ? le paiement de la cantine, éventuellement la gestion de mon réseau d'assainissement s'il est dirigé à distance, ou mes feux tricolores. Et donc là, on voit bien, c'est des enjeux concrets, hein, extrêmement concrets. Et là, bah, c'est pas la proximité qui vous aide. Et donc, c'est pour ça que je parlais un peu d'illusion. Et je pense que c'est un enjeu fort, encore pour moi, de dire qu'il faut s'adresser à ces petites collectivités, il faut entendre leurs besoins, il faut entendre leurs préoccupations, leurs contraintes. Mais il faut aussi leur amener des réponses pour qu'elles se dotent de ce type d'outils pour sécuriser, parce que ça va les sécuriser sur des choses très concrètes. Je prends l'exemple hein, tout à l'heure sur les attaques informatiques qui peuvent bloquer toute la paye, toutes les factures, la gestion automatisée des feux tricolores. Si j'ai des vannes dans mon réseau d'assainissement gérées à distance, elles peuvent se retrouver coupées du jour au lendemain, sauf intervention manuelle. Donc, c'est pas du virtuel, ça.
Oui, d'accord. Non, mais je comprends. La démarche d'audit, c'est une démarche de prévention, en fait, avant tout. Que se passe-t-il demain si je n'arrive pas? Si mon service est bloqué, si mon assainissement ne marche plus, on est vraiment dans de la prévention. Alors, imaginons une collectivité qui décide comme ça, de vendredi pour lundi, de se doter d'un service d'audit interne. Elle se dit, tiens, j'ai envie d'un service d'audit interne, j'ai entendu l'émission, elle est super intéressante. Est-ce que ça se passe, ça se passe comment en réalité? Je veux me doter d'un service d'audit interne, je fais quoi?
Bon, parfois en réalité, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. On voit qu'il y a beaucoup de collègues qui arrivent. Ah là, mon maire est allé, voir un de ses collègues de la ville d'à côté, ou de la région, du département d'à côté. Il a trouvé qu'il y avait une super idée, il veut faire pareil. Là, il me dit, allez hop, on y va, et bon, t'as un mois pour le faire. Donc, c'est pas si virtuel que ça, en fait. Ça arrive souvent. Comment on fait? Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est déjà, d'abord, un, aller voir ailleurs. Moi, je dis toujours, aller voir ailleurs. C'est pas rester seul face à sa copie ou à ses doutes ou à ses questions. C'est vraiment aller voir ailleurs. Donc, la SIAT, c'est le bon endroit où aller voir. Il y a plein de gens, je dis des gens de région, de département, petite collectivité. Et il y a plein de gens qui ont débuté la semaine dernière, il y a un mois ou il y a un an. Donc, ils ont eu les mêmes problèmes face à cette feuille blanche. Et donc, moi, mon conseil, c'est vraiment aller ailleurs et pas de réinventer l'eau chaude. Voilà.
D'accord. Alors, moi, j'imagine qu'il faut de l'expertise dans une collectivité locale pour avoir un service d'audit. Hein. Il faut avoir du personnel, de l'expertise. Alors, parlons de notre auditeur. Notre auditeur interne, est-ce qu'il a une qualification d'auditeur? C'est un diplôme où il applique juste une méthodologie. Qu'est-ce qui caractérise mon auditeur?
Bon, pour moi, effectivement, il y a toujours deux questions. On dit, est-ce qu'il faut que j'ai un professionnel de l'audit ou est-ce qu'il faut que je recrute quelqu'un qui connaissent par cœur tous mes métiers, ma collectivité, parce que c'est lui qui va être le plus pertinent hein, pour poser un diagnostic. Il n'y a pas de bonne réponse. Moi, je pense que l'un comme l'autre, ça peut être un bon auditeur. L'un comme l'autre devront faire des efforts de formation, c'est-à-dire aller voir ailleurs ce qui est fait. Il n'y a pas un auditeur qui connaît tous les sujets, tous les métiers. Je prenais l'exemple tout à l'heure de l'informatique. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'informatique, mais j'ai dû auditer ce sujet. Donc, on voit bien, quel que soit le profil que vous prenez, l'un des enjeux, c'est la formation. C'est la formation, mais c'est aussi aller voir ailleurs comment les autres s'y sont pris par rapport à un sujet, une question qui m'est posée. Par exemple, l'informatique, ou demain, si on vous dit qu'il faut auditer, la conduite de projet de voirie, par exemple. Donc, il n'y a pas de bon profil en ce sens-là. Mais en tout cas, il faut être accompagné, et je pense vraiment qu'il faut être dans un réseau professionnel, parce que sinon, ce sera compliqué. En revanche, pour moi, le critère, c'est la capacité à être objectif ou à prendre du recul. Et la principale difficulté qu'on peut avoir, ce serait quelqu'un qui est dans une collectivité depuis très longtemps et qui va se retrouver en difficulté à dire à ses collègues, là, je crois en fait qu'on s'est trompé pendant pas mal d'années. On a cru qu'on était très bon, par exemple, sur, la gestion des aides sociales du CCAS. Et en fait, on est allé voir ailleurs, on n'y est pas du tout. Et en fait, on a peut-être des défis à relever pour sécuriser le suivi, le contrôle de nos maisons de retraite, par exemple, de résidence autonomie. Ça, pour le dire à ses collègues, le dire aux élus, c'est parfois compliqué. Et ce n'est pas parce qu'on est proche qu'on sera plus entendu. Et on pourrait dire, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ou, mais qu'est-ce qui te permet de me le dire? Et donc, pour moi, il y a certes la méthode, compétences techniques, je l'ai évoqué. Quel que soit le profil, de toute façon, il faut se former, être accompagné dans des réseaux. Mais ce sera surtout la posture, à trouver la bonne posture, pour ne pas être perçu comme soit le donneur de leçons, l'empêcheur de tourner en rond, ou éventuellement celui qui règle des comptes. Voilà. Et donc là, il faut créer ce cadre de confiance, et là, il faut vraiment travailler sur la bonne posture de la personne. Et pour moi, s'il y avait un critère de recrutement, ce serait celui-ci. Voilà.
D'accord. Alors, Nous venons de parler de notre auditeur. Parlons maintenant de la démarche d'audit, en fait. C'est quoi qui caractérise une démarche d'audit ?
Alors, ce qui va caractériser une démarche d'audit, d'abord pour moi, c'est que c'est une démarche qui répond à des normes, voilà. C'est un métier, c'est comme n'importe quel métier. Hein. Si vous travaillez à la voirie, il y a des référentiels techniques qu'on emploie. Si vous travaillez à l'informatique, il y a plein de référentiels informatiques. Si vous êtes dans le social, il y a des pratiques professionnelles qui sont partagées. Bah, l'audit, c'est pareil. À l'audit, il y a des pratiques, ils sont des normes. Ce sont d'ailleurs des normes internationales que l'État, que les collectivités, au niveau de la SIAT, on a transposées aux collectivités. Alors maintenant que disent ces normes, c'est que l'audit doit être une fonction indépendante et objective. Si on veut qu'elle soit utile, elle doit être indépendante, c'est-à-dire être capable de dire à tout le monde, là on s'est trompé, là on a un petit souci, voilà ce que je vous suggère, comment il faut faire. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il ne faut pas être sous pression. Il faut pouvoir dire les choses. Ça, c'est l'indépendance. Objectivité, ça veut dire il faut une méthodologie, il faut prouver ce que l'on dit. C'est pas en gros, ce qu'on attend d'un auditeur, c'est pas ce qu'il pense. C'est pas ce qu'il a appris pendant sa carrière. C'est pas son intuition. Ce qu'on demande à l'auditeur, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a prouvé, c'est ce qu'il objective. Et là, il y a toute une méthodologie, une technique. Il faut aller vérifier, comme on dit, sur place, c'est-à-dire aller sur le terrain, aller vraiment là où les activités se passent, dans la cantine, voire dans les égouts, sur le chantier de voirie, dans les services sociaux, et on dit si sur pièce, c'est-à-dire vérifier les documents sur pièce, pareil dans les bureaux. Et ça, c'est un point important. L'autre point que je dirais aussi, c'est que c'est une activité qui est programmée. C'est-à-dire que l'auditeur ne choisit pas par lui-même, du jour au lendemain, je me lève, je vais aller auditer le service des marchés, ou je vais aller auditer le service des espaces verts. Non, l'auditeur, il doit construire un plan d'audit qui est programmé en s'appuyant sur une analyse de risque, c'est-à-dire où sont les points où mes élus, mes collègues, la direction générale a besoin d'être rassurés sur nos outils de contrôle interne sont bien adaptés, suffisants et très robustes. Voilà. Et donc, il faut prioriser. En gros, je ne vais pas aller auditer les petits sujets ou les sujets de préoccupation du moment, mais demain, ils ne seront plus ceux-là. Mais je ne vais pas non plus auditer là où ça ennuie personne. Donc, il faut être capable de construire un programme d'audit structuré, argumenté. Voilà. Et ça me paraît important. Indépendance, objectivité, mais aussi une activité programmée, planifiée. Voilà.
Et l'indépendance, ça veut dire quoi concrètement ? Quand je m'inscris dans une collectivité locale, je suis bien un service d'une collectivité locale. L'indépendance, ça veut dire quoi ?
Alors, indépendance, ce n'est pas dans l'absolu. On est tous le relié à quelqu'un. On a tous quelqu'un qui nous paie, qui nous recrute, qui nous évalue, qui fait notre entretien. Donc pour moi, l'indépendance, ce n'est pas de dire je suis au-dessus de tout le monde, je suis le super chef et je fais ce que je veux. Voilà, je suis un procureur, un super juge. Non, ce n'est pas ça. L'indépendance, en fait, c'est créer de la confiance et être capable de dire les choses, en fait. C'est de dire, moi, président, maire ou directeur général, tu m'as recruté. Moi, mon devoir, mon éthique professionnelle, c'est de te dire les choses pour t'aider. Voilà. Et l'indépendance, c'est ça. C'est oser dire les choses, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Mais justement, parce qu'on est redevable à la collectivité qui nous a confié cette mission. Pour moi, c'est ça l'indépendance. Voilà. Pour y être, parce que vous allez me dire, oui, mais ça, c'est que des mots. Pour y être, pour moi, on s'appuie sur quoi ? Sur les normes que j'ai évoquées. C'est-à-dire, il faut écrire. Pour moi, il faut dire, l'auditeur, dans ma collectivité, dans ma ville, dans mon département, dans ma région, comment ça se passe ? Et donc là, notamment, on utilise une charte d'audit, une charte qui est validée par tout le monde, par la collectivité, qui dit qui missionne, qui signe la lettre de mission, à qui le rapport est remis. Est-ce qu'il y a un contradictoire ? Est-ce qu'il y a un droit de réponse des personnes qui gèrent les activités auditées ? Comment sont choisis les sujets d'audit ? Par rapport à quels critères ? Est-ce que les recommandations sont suivies, sont pas suivies ? Et donc ça, c'est décrit dans une charte. Voilà. Et c'est en gros le contrat qui me lie, moi auditeur, à ma direction générale, à mes élus, à ma collectivité. Et c'est cette charte qui finalement me donne les moyens de mon indépendance. Voilà.
D'accord. Alors vous avez dit rapport. Il y a un rapport qui est remis ?
Pour toute mission d'audit, oui, effectivement, un rapport, c'est dans les normes. Pourquoi ? Parce que l'audit doit être écrit. Et le fait d'écrire un rapport, ça oblige l'auditeur. Moi, je dis toujours, un mauvais auditeur, c'est l'auditeur qui, dès qu'on lui pose une question, il a la réponse. Non, le bon auditeur, c'est celui qui dit, tu poses la question, je vais aller vérifier ce que je ne sais pas. Ça, un auditeur qui sait tout, c'est un auditeur dangereux. Donc l'auditeur utile, c'est l'auditeur qui se pose des questions, mais aussi qui va écrire. Pourquoi ? Parce que s'il écrit, il engage sa responsabilité. Il y a un écrit et il doit écrire et il doit partager auprès de tous ce qu'il a vu, ce qu'il a observé, quelles sont ses conclusions et ses recommandations. Donc le fait d'avoir un écrit, et un écrit qui a un format bien particulier, c'est important. Ça protège la collectivité, ça protège les élus, ça protège les responsables des services qui sont audités, et ça oblige l'auditeur à être rigoureux, prudent, humble, et aussi à prouver ce qu'il dit. C'est très important. Et le rapport doit être soumis au contradictoire, c'est-à-dire la personne qui est responsable du service audité, elle doit pouvoir dire « tu t'es trompé, t'as mal compris, je ne suis pas d'accord », comme dans un rapport remis par la CRC. C'est très important.
Donc ce rapport, est-ce qu'il a deux parties ce rapport ? Je dresse un état du risque que j'ai pu voir, de manière détachée, etc. Mais j'ai pu voir ce état de risque et je recommande des choses. Est-ce que c'est bien ces deux parties ?
C'est bien ça, oui. Il y a vraiment... Alors le plan du rapport peut varier d'une collectivité à l'autre, mais en tout cas, Olivier, ce que vous dites est juste, hein, c'est que dans un rapport, et c'est ce que prévoient les normes, il doit y avoir la description des faits, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. Et une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est grave ? Moi, je dis toujours, est-ce que tout va bien partout ? Bah non, la vie, c'est ça. Hein. Mais en revanche, il y a des choses graves et des choses qui ne sont pas graves. Bah, ce qui n'est pas grave, bah, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de recommandations. Et donc, on doit hiérarchiser ces constats. Et sur les constats les plus importants, on fait des recommandations. Ça, c'est important parce que c'est ce que prévoient les normes d'audit. Hein. C'est que l'audit, il n'est pas là juste pour faire un état des lieux, un diagnostic. L'audit, il est là vraiment, je disais tout à l'heure, pour aider la collectivité.
Pour avancer, oui.
C'est un partenaire. Il doit aider la collectivité. L'audit n'est pas là pour dire, écoutez, ça ne va pas, maintenant débrouillez-vous, je vous l'ai dit, c'est votre affaire. Non. L'auditeur doit dire, bah, écoutez, ça ne va pas, mais bah, moi, je vais vous aider. On va réfléchir ensemble et je fais des recommandations. Donc, un rapport sans recommandation, c'est une fonction d'audit qui n'aide personne. Et c'est un auditeur aussi qui est dangereux, parce qu'on dirait, il allume le feu, il dit, il y a un problème, et maintenant, débrouillez-vous. Non, il faut faire des recommandations et il faut discuter cette recommandation avec sa collectivité. Voilà.
Alors, je me mets à la place d'un auditeur, enfin, ou d'une auditrice. Je remets mon rapport. Est-ce que j'ai un droit de suivi ? Est-ce que je m'inquiète de ce que devient mon rapport ? Est-ce qu'il est suivi des faits ou je passe à autre chose ?
Eh bien, ça, c'est aussi une très bonne question, Olivier. Il n'y a que deux bonnes questions aujourd'hui. Oui, et les normes le disent. C'est-à-dire vraiment, l'audit interne, il faut bien l'identifier. Ce n'est pas l'inspecteur général qui décide de tout seul et qui joue au procureur ou au juge dans sa collectivité. Enfin, très souvent, il y a eu des cas comme ça hein, dans certaines collectivités. Mais non, ce n'est pas ça du tout. L'auditeur, comme je dis, il aide la collectivité. Aider la collectivité, ce n'est pas dire « il y a un problème, je vous donne le bon traitement », mais c'est aussi vérifier que le traitement marche. Le bon auditeur, c'est celui aussi qui s'assure qu'il ne s'est pas trompé dans ses recommandations. Et pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé, bah, il faut venir vérifier « oui, le plan d'action, mes recommandations ont été mises en œuvre, mais elles marchent ». Alors pourquoi elles ne marchent pas ? Parce que parfois on a eu la mauvaise idée, mais le contexte change. Le contexte change, j'ai changé d'outils informatiques, la loi, la réglementation a changé, même la ville a changé, son territoire a changé. Donc ce que j'ai dit il y a 5 mois, 1 an, 2 ans, c'est peut-être plus bon aujourd'hui. Et donc, c'est une bonne question Olivier, mais c'est vraiment une obligation pour l'auditeur de venir régulièrement voir si les choses sont mises en place, mais vérifier si ça marche. Et ça permet de s'assurer que mon auditeur, quand il va écrire son rapport, il va être prudent, il ne va pas écrire des choses soit infaisables ou... Il va être prudent dans sa recommandation, au sens où il va vraiment, vraiment s'assurer que ce qu'il écrit, ce qu'il préconise, c'est quelque chose qui va pouvoir être mis en œuvre et qui va pouvoir résoudre des problèmes et aider la collectivité. Donc, c'est non seulement utile, mais indispensable pour la collectivité, hein, que l'auditeur retourne voir, et ça protège même la collectivité par rapport à son auditeur.
Alors, à l'Agence française anticorruption, comme vous le savez, nous recommandons la mise en œuvre pour les sociétés bah, de plans anticorruption et pour les collectivités territoriales, les administrations publiques en général, de dispositifs anticorruption, lesquels comprennent une mission d'audit interne. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Si on applique tous ces concepts, tout ce que nous venons de dire aujourd'hui, à l'anticorruption ?
Alors c'est un vrai sujet et je pense que l'AFA a été très aidante, hein, notamment avec tous les documents que vous avez produits, hein, qui aident les collectivités à mettre en place ces plans anticorruption. Et par rapport à cette question... Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet, comme je disais tout à l'heure, c'est que l'audit, c'est une activité qui est programmée, qui est planifiée. Et ça veut dire pour moi que l'audit doit, dans son plan de travail annuel, c'est-à-dire dans la liste des audits qu'il va mener, réfléchir à est-ce que les audits que je vais réaliser vont permettre de mieux apprécier ce qu'a mis en place la collectivité pour sécuriser le risque anticorruption. En gros, j'ai choisi d'auditer, je ne sais pas, moi... si je suis dans un département, les aides aux personnes âgées, les aides aux personnes handicapées ou les subventions, Être capable aussi de se dire, j'ai choisi tel sujet, pour quelle raison? Et la raison doit être aussi, est-ce que cet audit va permettre de mieux apprécier, de mieux mesurer le niveau de garantie que l'on a par rapport à ce risque anticorruption? Pour moi, c'est la première question. Et le deuxième point par rapport à votre question, Olivier, c'est de dire, dans chaque audit que je réalise, c'est aussi d'intégrer des travaux de vérification sur cette question de la corruption. Puisqu'on s'aperçoit finalement, quels que soient les audits, on peut, d'une manière ou d'une autre, être confronté à cet enjeu anticorruption. Je prends un exemple. Si je suis chargé d'un audit, par exemple, sur la maintenance informatique, je vais me dire, mais c'est pas la corruption. Si, parce que quand je fais la maintenance informatique, parfois, je vais devoir regarder la maintenance de tout ce qui est requête ou tout ce qui va être aussi droit et habilitation sur l'outil. Comment je sécurise ceci? Et là, on voit bien qu'il y a un impact, un enjeu sur la corruption, avec la séparation des fonctions. Et donc, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a un, je construis mon plan de travail annuel, je m'assure que je choisis des thèmes, des sujets sur lesquels la collectivité a besoin d'être sécurisée par rapport à la mise en œuvre de son plan de prévention anticorruption. Et pour chacun des audits que je réalise, toujours se poser la question, mais en quoi l'audit que je réalise peut aussi vérifier que j'ai bien sécurisé mon travail, mon organisation, par rapport à ce risque de corruption? Si je prends un exemple concret, par exemple, du moment, là, on est en train d'auditer dans ma collectivité, par exemple, des activités liées au sport et loisirs. On voit bien que sur ce sujet, par rapport aux partenaires, il y a la question des invitations, par exemple. Des invitations, comment je négocie les contrats, les conventions, comment j'anime ces partenariats. Derrière, c'est effectivement les cadeaux, etc., les invitations. On voit bien que sur un audit qui est peut-être l'animation des partenariats sportifs et culturels, je peux très bien intégrer dans mon audit une préoccupation qui est inscrite dans le plan de prévention de la corruption de la collectivité, qui est cadeau, invitation en particulier.
Alors merci beaucoup pour ces précisions. Je vais terminer par une dernière question. Comment vous voyez l'avenir de l'audit dans les collectivités territoriales, vu de la SIAT en fait?
Alors, je ne suis pas Madame Irma, voilà, je suis auditeur, donc en tant qu'auditeur, je vais être humble, prudent et m'en tenir au fait. On produit tous les ans à la SIAT un baromètre qui permet à la fois de voir où en sont les collectivités dans l'implémentation de ces différentes fonctions, comment elles sont structurées et sur quoi elles travaillent. Et donc, nos baromètres tous les ans montrent quand même qu'on a ces fonctions qui évoluent, qui se répandent, avec la réserve que j'évoquais tout à l'heure sur le bloc communal, qui est très spécifique. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tendance quand même à ce que ces fonctions se propagent un peu partout. Pour moi, dans l'avenir, ce que je vois, c'est qu'on va passer finalement un cap qui sera celui de l'expérimentation à la maturité. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu. Aujourd'hui, les collectivités, faute de cadre réglementaire, faute de cadre aussi méthodologique propre, particulier, qui ne préexistait pas aux collectivités, chaque collectivité, dans son environnement, avec ses contraintes, a fait au mieux et a structuré ses missions. On voit qu'il y a d'autres acteurs qui apparaissent, comme l'AFA, comme toi, Olivier, qui produisent des référentiels. Et là, on voit bien que maintenant, les collectivités vont devoir passer d'une phase, on va dire, d'enfance ou d'adolescence. On s'est approprié, on a expérimenté ces différents métiers, à la maturité. Et avec ces fonctions qui seront considérées comme la comptabilité, comme les marchés publics, comme les RH, qui seront une fonction comme une autre, assez banalisée. Pour moi, c'est ça dans l'avenir. Et donc, à la SIA, notre sujet aujourd'hui, c'est d'accompagner finalement ce passage à la maturité, et notamment en essayant de proposer un cadre un peu commun aux collectivités sur c'est quoi finalement un service d'audit ou de maîtrise des risques ou de contrôle interne un peu mature. Voilà. C'est quoi la cible? Quel que soit le chemin, la route qu'on emprunte, qui peut être parfois très tortueuse, mais c'est quoi le point d'arrivée? Et notamment cette année, on va essayer d'avoir un guide, un document qui s'adressera plus aux collectivités de plus petite taille, qui ont des contraintes plus particulières et qui ne peuvent pas s'offrir le luxe de séparer toutes ces fonctions parce que simplement elles n'ont pas les effectifs. Voilà. Et notamment répondre aux questions que vous posiez, Olivier, sur « j'ai eu l'idée dans la nuit de mettre ça en place, comment je m'y prends ?»
D'accord. Voilà. D'accord. Je crois qu'il y a un vrai travail devant vous, en fait. Monsieur Yannis Van Ling, il ne me reste plus qu'à vous remercier.
Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.